Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022, il fait toujours gris dans le Beaujolais et puis il fait pas super chaud, s'accorde à dire tous les experts, autour de 8 degrés environ. Dans notre émission, on a rendez-vous avec Charline Simian, on va parler d'alimentation avec elle. On terminera avec le prof Patrick pour une rubrique économique, sociale ou politique suivant son humeur. Et avant ça, eh bien, on va passer un moment avec nos invités du jour, c'est le groupe Hôtel Particulier. Ils sont quatre, ils sont basés à Lyon, ils font une musique plutôt rock. En tout cas, il y a tous les ingrédients pour faire du rock. Et puis, il y a surtout beaucoup de poésie dans ce qu'ils font. Ils ont sorti la semaine dernière leur premier EP Hôtel Particulier et ils seront en concert pour le présenter ce vendredi 2 décembre au Sonic à Lyon. Alors, je pourrais vous parler de leur musique et énumérer des adjectifs pour essayer de la décrire. Le mieux, c'est encore qu'on les écoute. Voici donc Funambule de Hôtel Particulier. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Ses viscères, il s'est coupé de la terre. Gravité l'a rappelé et sévère.
Hôtel particulier sur Calade avec Funambule.
Ensemble sur Calade.
Et ils sont avec moi en studio, hôtel particulier. En tout cas, il y en a trois sur les quatre. Félix, Cyril et Mélodie, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir. Donc, on vous a entendu avec, avec ce titre Funambule qui figure sur votre premier EP sorti la semaine dernière, qui s'appelle Hôtel particulier également. Est-ce qu'on peut commencer par raconter un peu l'histoire de votre groupe, essayer d'un peu mieux vous connaître et savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment ça a commencé Hôtel particulier?
Eh bien, on s'est rencontrés à l'ENM de Villeurbanne, c'est l'École nationale de musique.
Ok.
Qui, pour le musique actuelle, on s'est rencontrés là-bas. Au début, on a voulu faire un duo avec Cyril. Ça ne fonctionnait pas, il nous manquait trop d'éléments.
Ah ouais.
Et du coup, à la fin d'un concert, on a croisé Seb et Félix et on leur a demandé si vous voulez faire un groupe avec nous.
D'accord.
Et le lundi d'après, on répétait et voilà.
Et tous les lundis depuis.
Et tous les lundis depuis.
Presque. C'est vrai, c'est devenu un rendez-vous sacré le lundi, ces répétitions.
Ouais, ça a été.
Ça a changé.
Et comment est-ce qu'on... parce qu'il y a la rencontre, il y a se dire on va faire de la musique ensemble, et puis il y a le moment où on se dit ça va être hôtel particulier, ça va être ce projet-là. Comment est-ce que le projet s'est défini? À quel moment? Est-ce que dès le début, vous avez chacun des envies qui vous ont mené dans cette direction, ou ça s'est construit petit à petit?
Bah, le nom, ça a été trouvé à la première résidence qu'on a fait chez Gégé.
Chez mon père.
Chez le père de Cyril. Donc, ouais, et là, par contre, c'est le rendez-vous sacré. On y va tous les ans et on va composer là-bas. C'est vraiment un bon endroit. On s'y sent vraiment bien.
C'est un cadre particulier pour travailler?
Ouais, c'est un peu là que tout se construit finalement, je pense.
On est au dernier étage de la baraque et on amène tout le son et on reste là-bas 10 jours. Et on est à côté du lac.
Savoie, ouais.
D'accord.
C'est là-bas qu'on compose du coup.
Dans la nature.
Non, on faisait d'autres répètes et puis après ça se dessine. Au bout de plusieurs répètes, on se dit qu'on est peut-être quelque chose.
Ouais.
On avait déjà les mêmes, surtout les mêmes ambitions déjà. Okay. Les mêmes ambitions, mais pas forcément les mêmes influences. Mais du coup, on a mixé un petit peu tout ça. Et puis, à terme, au bout de plusieurs rendez-vous, on se dit bon.
Ça finit par se définir.
On va continuer.
Okay.
Et on va chez GG et puis on va composer encore et encore.
Et alors, pourquoi hôtel particulier? Pourquoi ce nom? Je sais pas, j'ai trouvé une chanson de Gainsbourg.
Ouais, bah, ça a été une ref au début. Nous, ça nous. On est tombé d'accord là-dessus. Ça a été
blague au début.
Des longs débats houleux, ouais.
On trouvait pas de nom.
Et puis on gardera le mystère de notre premier nom.
Le premier nom sera tu. Ouais, après, bah, c'est un peu moi cette atmosphère dans le morceau de Gainsbourg. J'aime bien ce côté d'ambulation dans un lieu un peu énigmatique, un peu labyrinthique, où il se passe des choses intimes. Intense en même temps. Et je pense que ça se traduit dans notre musique. Ça nous représentait, ça nous a parlé. Je pense que ça nous représente encore bien. Quoi.
Ouais. Et puis ça marche dans le morceau de Gainsbourg de créer un lieu avec, avec juste du texte et de la musique. On se balade vraiment dans l'hôtel. Vous faites ça un peu avec votre musique aussi, de créer des endroits, des décors et puis des histoires. On rentre dans votre univers quand on écoute vos morceaux. Ça fait partie de Hôtel particulier, du projet.
Ouais, chouette, merci.
Ouais, on aime bien emmener les gens dans des ambiances, se dire que dans un morceau on va dans un endroit, dans une émotion particulière, et puis le morceau d'après, si on veut, en fait on casse tout et on reconstruit directement.
Et on va autre part.
Et
alors, moi, je sais pas du tout définir la musique d'un groupe de musique. À chaque fois, je me casse la gueule en disant ah, vous êtes plutôt comme ci, vous êtes plutôt comme ça. Alors, je vous laisse faire. Si les auditeurs ont raté le premier morceau, qu'ils n'ont aucune idée de ce que vous faites, comment est-ce que vous pourriez leur expliquer?
Ça, c'est toujours la question complexe. Hein.
Ouais. Bon, on aime bien dire rock onirique et poétique en français. Parce qu'on fait que du français, parce qu'on aime bien écrire. Parce qu'on aime bien rêver, et il y a un côté un peu dramatique dans le sens dramaturgie,
ouais,
dans le sens théâtral, dans ce qu'on fait, même si les chansons ne sont pas forcément des pièces de théâtre.
Mais... Oui. Les trois morceaux de l'EP, ces voix, tu coules les funambules. En tout cas, tu coules les funambules, il y a la mort qui n'est pas loin. je trouvais qu'il y avait un côté un peu tragique, vous avez dit dramatique, mais c'est un univers un peu sombre, en tout cas pour l'instant, de ce que j'en ai vu et entendu.
Oui, c'est pas que pour les dépressifs non plus.
Mais en tout cas, vous n'avez pas l'air de l'être.
Personnellement, on ne l'est pas spécialement, mais, c'est ça qui nous intéresse, en tout cas, on a envie d'aller creuser ces questions intérieures, ces cheminements, Et c'est une invitation, je pense, au voyage, comme on disait, un peu au rêve, et puis à l'introspection aussi. Mmh. On sait tous que voilà, qu'on a des moments où on écoute de la musique seul dans sa chambre, et puis on comprend des trucs. Ouais. Donc nous.
Peut-être pour ça qu'on est heureux là justement.
c'est un exutoire en fait. Ouais. C'est un exutoire.
Et comment est-ce que vous voulez créer du coup ces ambiances? C'est quoi votre processus de création? Je crois j'ai compris qu'il y avait un voyage à la montagne tous les ans qui aidait. Et comment ça se passe?
On s'enferme ensemble dans une pièce et puis il n'y a pas vraiment de règles en fait. Ça
part sur une petite idée, tu vois.
Voilà, il y a quelqu'un qui propose une idée.
Généralement, Seb vient avec une grille.
Une grille bien dramatique.
Ouais. lui, il est bien influencé par tout ce qui est Radiohead et puis nous, on adore aussi. Et du coup, ce côté planant, c'est des accords en arpèges et mélo aussi. Enfin, souvent, c'est les guitares qui ramènent. Qui ramène des grilles, j'ai l'impression, et puis on fait un bass-bat, on écrit un texte. Et c'est très collectif, quoi.
Ouais. Ça, je trouvais que les morceaux, le texte et la musique se répondaient. Enfin,
c'est l'idée.
Le funambule, la musique, elle fout le vertige avec dans ses sons. Tu coules, c'est très aquatique. Du coup, je me demandais comment c'était travaillé. Est-ce que le texte arrivait avant, et puis vous allez essayer de créer une musique autour pour...
Mais ça dépend des morceaux. Félix, il a des carnets avec des pages et des pages et des kilos de textes que parfois on utilise, mais parfois on écrit directement dessus. Moi, je sais que j'aime bien d'abord trouver des mélodies, et en fonction de la mélodie, de ce que ces mélodies-là me font ressentir, je sais ce que j'ai envie de dire, et après on définit ensemble ce qu'on va vraiment dire. Donc en général, on trouve... un point vraiment commun d'émotion et de sens.
D'accord.
Et aussi avant, on composait beaucoup plus l'instrumental avant de faire les voix.
Ouais.
Et maintenant, on travaille carrément à l'inverse. On fait les voix et on essaie de faire quelque chose autour qui va bien avec. On se concentre plus là-dessus, beaucoup plus. Ouais.
Donc le premier EP, il y a trois morceaux. Là, on a parlé un petit peu de comment est-ce que vous avez écrit, imaginé ces morceaux, ils ont dû être enregistrés. Et, moi, je trouve qu'enregistrer un disque, c'est figer un morceau. Et je pense que c'est pas quelque chose de facile pour des musiciens de dire bam, c'est fini, c'est le morceau, il ressemble à ça. Ça s'est fait comment pour vous?
Ça a été long. Pardon, tu veux y aller?
Non,
vas-y. Ça a été un long processus. Enregistrer nous, en tout cas, personnellement, je sais pas vous, moi je suis content là, plutôt que ça sorte, que le morceau soit figé, là, parce qu'on a...
Parce qu'on en a d'autres.
On a d'autres qui arrivent, et là, c'est pas des vieux, mais Funambule qu'on a entendu, ça fait partie des premiers qu'on a composés. Et en fait, ça fait un moment qu'il est figé. Alors oui, le studio, ça aide à vraiment asseoir le truc, mais moi je suis plutôt content en fait de la manière de les fixer un peu comme ça, parce que de toute façon c'est quelque chose, quand on les défend sur scène c'est vivant, donc ça bouge en fait, même si on écrit très précisément, on va avoir de l'interprétation qui va bouger, tout ça reste vivant sur la scène, quoi.
Vous m'aviez dit hors antenne que le EP, il y avait deux morceaux de plus, qu'ils n'ont pas été gardés, qu'il y a eu d'autres choses.
Oui, c'est-à-dire que les premiers.
Comment ça se passe aussi pour choisir?
Triste histoire.
En fait, c'est une question de feeling, de est-ce qu'on en a marre ou est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller. On a enregistré Funambule, on a enregistré d'autres morceaux, et il y avait un truc qui bloquait, un truc qui n'allait pas.
Ouais.
Mais oui, quelque chose on avait du mal à le défendre. Une semaine après, on avait envie de le défendre. Encore une semaine après, on n'avait plus envie de les défendre. Donc, on a composé, on est retourné chez Gégé, à Margencel. Et on a composé d'autres morceaux, parce qu'on compose régulièrement, et on s'est dit, ouais, en fait, c'est ceux-là qu'on a envie de défendre, et les autres, ils sont trop vieux, il y a quelque chose qui coince, donc qu'est-ce qu'on fait on...
Et surtout, certains d'eux, c'était un morceau qui, de base, venait d'un musique qui venait de toi, Mélodie, et que nous, on a arrangé pour mettre en groupe, voilà. Alors que ceux qu'on a fait après, c'est vraiment nous tous ensemble.
Il y avait moins de collectif, en fait.
C'est moins collectif. Mmh.
Mmh. Et ça se ressentait. Du coup, on a décidé de supprimer ces deux morceaux et de retourner en studio. On a la chance d'être entouré de nos meilleurs copains qui ont ce studio-là. Deux anges gardiens, Maël et Louis Sabuco.
La Casa Nostra, gros big up à eux, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Puis ils ont été cool quand on a voulu changer. Ils ont pas tordu le groin. Ils ont dit ok, pas de problème. On fait ça, on supprime ça, parce qu'on on s'est rendu compte de problèmes de composition.
Ouais.
Le morceau c'était déjà dans la boîte. Et on a dit bon on jette, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Ils ont dit grand merci à eux quoi.
Bon. Un EP et vos musiques, vous les défendre sur scène. En live, ça se passe comment? Un concert d'hôtel particulier, ça ressemble à quoi?
Bah, faut venir vendredi pour ça.
Bien joué. Il y a des choses spéciales là. Je trouve les musiques, on prend le temps enregistrées en studio, sur la version que j'ai pu entendre. On prend le temps, c'est tranquille. Alors, de temps en temps, ça vient s'énerver, mais ça reste quand même assez calme et pour une écoute assise avec son casque sur les oreilles. Est-ce qu'en concert, vous permettez de donner un grand coup et
ça en veut plus,
ouais.
Il y a un énorme jeu de nuances aussi.
C'est
donc,
tout l'enjeu, ouais. C'est tout l'enjeu de... Pour nous, c'était tout l'enjeu du live, c'est de comment on va faire pour faire en sorte que les gens s'amusent, pleurent, rient. En fait, on va juste jouer nos morceaux et on verra ce qui se passe. Le tout, c'est d'équilibrer le set, je pense, c'est de faire les morceaux au bon moment.
Très bien. Et donc, le rendez-vous, c'est le 2 décembre, c'est ce vendredi.
C'est ce vendredi, au Sonic.
Au Sonic, exactement. Il y a d'autres dates de prévues dans les jours à venir
Pas tout de suite.
Pour l'instant, non. On a joué à Paris il y a 2 semaines.
Ok. Et en général, après un EP, l'étape suivante, c'est un clip pour illustrer un morceau, pour communiquer avec, et puis après pourquoi pas un album. Vous avez déjà des projets derrière après ce concert? Et qu'est-ce que vous allez bien vouloir me dire?
Non, on a plein de choses qui arrivent, oui. Comme on l'a dit, de toute façon on sort 3 morceaux, mais on a plein d'autres choses à montrer et on a un clip qui va sortir incessamment sous peu.
Super.
Début 2023.
Très bien, pour découvrir votre esthétique. Donc je rappelle que vous vous appelez Hôtel Particulier. On vous retrouve sur les réseaux sociaux si on a envie de vous suivre et puis de voir s'il y a des nouvelles dates de concert. Donc Hôtel Particulier tout simplement, .band sur Instagram.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Pour vous retrouver, ce sera plus simple. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci à toi.
Et puis on va se quitter avec un autre morceau, j'en ai pas mal parlé, c'est Tu Coules. À très bientôt.
À tout.
C'était Hôtel Particulier sur Calade avec le titre Tu coules. Et tout de suite, on va continuer avec Charline Simian.
Oh, vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Allez, tout de suite, on retrouve Charline Simian. Bonjour Charline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va bien en forme ?
Oui.
On parle avec vous d'alimentation et de santé, puisque vous êtes notre diététicienne et nutritionniste. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de casse-croûte, de petits goûters qu'on peut faire dans la journée. On nous dit souvent qu'il ne faut pas grignoter. Qu'est-ce que vous en pensez du goûter ?
Alors, vous me parlez de choses différentes.
Ah.
et c'est une confusion qui est très communément acquise, notamment auprès de la population adulte. C'est que si je fais un goûter, c'est un grignotage. Et en réalité, il n'est pas rare au cabinet, par exemple, que je propose à mes patients de faire un goûter. Que ce soit en matinée, parce qu'ils ne vont pas avoir pris de petit-déj le matin et que donc ils ont faim en milieu de matinée, ou inversement, dans l'après-midi. Midi, parce que finalement, le temps entre le repas de midi qu'on prend un peu sur le pouce avec des quantités qui ne sont pas toujours très adaptées parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup de reste ou pour tout un tas de raisons, et le temps où on va arriver au dîner, il peut être assez long. Et donc, pour éviter de débarrouler le frigo ou de grignoter effectivement tout un tas de trucs en rentrant à la maison.
Ouais.
Il est peut-être préférable de se prendre un petit temps de goûter sur le temps de milieu d'après-midi. Alors après, ce goûter, effectivement, qui se transforme en grignotage, on ne va pas se mettre dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que moi, le grignotage, je l'imagine un peu en mode chill devant une série, sous un plaid, en faisant pas très attention à ce que je mange et en mangeant plutôt des trucs chocolatés qu'on va piocher dans un paquet et on ne va pas pouvoir s'en arrêter.
Ouais.
Ça, c'est plutôt ma définition du grignotage. Alors que le goûter, pour moi, va être un vrai repas à part entière, c'est-à-dire qu'il va plutôt se prendre à table, assis, avec des couverts de préférence. C'est-à-dire que si je dois manger un fruit, je vais plutôt le couper. Si je dois manger un laitage, je vais plutôt prendre un laitage qui ne soit pas un laitage à boire, pour arriver vraiment à faire de ce moment goûter un moment particulier, non culpabilisant et qui permette justement de manger. Après, pour ce qui est de sa composition, de ce goûter, tout dépend. Soit vous avez envie de sucré, soit vous avez envie de salé. Rien n'est véritablement interdit à ce moment-là. À partir du moment où on fait les choses un petit peu en conscience, finalement, et où on va se retrouver à pouvoir réadapter le reste de sa prise alimentaire sur la journée en fonction de ce que j'ai déjà mangé. C'est souvent l'inquiétude, en fait, des gens de dire « Oui, mais si je fais un goûter, je vais manger plus dans la journée. » finalement, je peux très bien manger pareil dans la journée, mais sur 4 repas au lieu de 3.
D'accord. Et donc, ça évite, si à un moment, si on a l'habitude d'avoir faim entre le repas de midi et le repas du soir, ça évite effectivement de s'éclater un paquet de petits gâteaux. Par
tout à
exemple.
Fait, et puis aussi, sinon, d'être obligé d'être... Vous savez, ce fameux « no pain, no gain » que j'affectionne particulièrement, d'être dans le dur, là, jusqu'au moment où... « Ah, mais il n'y a qu'une soupe à manger en plus, c'est une catastrophe, donc je vais manger du pain en quantité inadaptée, je vais rajouter tout un tas de trucs au moment de mon repas, parce que en fait, j'aurais eu tellement faim et j'aurais tellement attendu ce moment que finalement, ça peut un petit peu exploser au moment du dîner. Mmh. » Donc plutôt que d'exploser au moment du dîner, on va préférer faire un goûter qu'on va effectivement adapter en quantité, sur lequel on va essayer de trouver quand même un moment pour soi. Ça peut presque être un cadeau qu'on se fait de se faire un goûter.
Ouais, oui, ça me parle bien cette idée. qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans pour que ce soit un goûter équilibré et qu'on puisse manger sans problème ?
Alors, dans l'absolu, plutôt quelque chose qui va se mâcher, donc les laitages à boire, les compotes à boire, on va essayer d'éviter. Ça n'empêche pas de mettre une boisson, parce que ça peut être le moment aussi de se réhydrater aussi à ce moment-là. Et puis, plutôt des choses qui sont masticables. Alors, ça n'exclut pas de mettre des biscuits, mais on peut très bien partir sur le sempiternel pain et chocolat.
Ouais.
On peut aussi très bien être sur pain et fromage parce que c'est plutôt de ça dont j'ai besoin. Souvent, sur les patients qui vont souffrir, par exemple, de diabète, on va les inciter, s'ils ont besoin de faire un goûter, à regarder quand même leur taux de sucre, en fait, à vérifier leur glycémie, parce que du coup, on va l'adapter pas vraiment en fonction de l'envie, mais à ce moment-là, en fonction de leur glycémie. C'est-à-dire que si ils ont trop de sucre, on va essayer de pas mettre de sucre dans ce qu'on va manger. S'ils sont un peu en manque de sucre, on va essayer de mettre un petit peu de sucre dans ce qu'on va manger. Si on n'a pas de problème de santé de cet ordre-là, tout est envisageable. On peut se faire un bol avec un muesli et un fromage blanc ou du lait, selon qu'on préfère. On peut manger un fruit. Le tout étant de ne pas être en mode laitage et fruits, parce que c'est ce qu'il faut, c'est pas, c'est nutritionnellement acceptable. Mais en réalité, au fond de ma tête, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt des biscuits, parce qu'à ce moment-là, il y a le risque de faire yaourt plus fruits plus biscuits.
Parce que finalement, on en avait trop envie. Très bien.
Exactement.
Ok, merci beaucoup pour ces conseils, Charlène.
C'est un plaisir, comme d'habitude.
À très bientôt, ciao ciao.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Catastrophe sur Calade avec courage.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune. C'est la
mort. Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et oui, il est avec nous en studio comme chaque semaine. C'est le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, notre série préférée est terminée.
Crois-tu ?
Ah non, il y a un autre épisode, épisode sur...
Je t'explique. Combien étaient les trois mousquetaires, Mathieu ?
Ils étaient quatre.
Et ben voilà.
Et ouais,
donc
ouais.
Ma trilogie, il y aura quatre épisodes. C'est comme ça.
Génial.
Je suis Alexandre Dumas, petit-fils, on va dire. Et oui, je vais faire une suite à notre trilogie parce qu'en fait, on était resté sur une question brûlante. qui concernait la crise provoquée par le réchauffement climatique. J'avais posé la question, est-ce que ces milliardaires libertariens qu'on a évoqués croient vraiment que les solutions qu'ils préconisent face au réchauffement climatique, hein, face à cette question-là, seront efficaces? Or, j'avais dit, si tu te souviens bien, la semaine dernière, que, a priori, ma réponse était plutôt non, ils n'y croient pas.
Ouais.
Mais bon, c'est bien de prouver un peu, d'étayer un peu cette affirmation peut-être gratuite. Je vais donc, pour montrer pourquoi cette réponse négative est la plus probable, décrire dans cette chronique l'idéologie des milliardaires. Je vais me servir de deux articles très détaillés qui m'ont servi de fondement. Il y a un article de Thibaut Prévost dans le site Arrêt sur image par abonnement, vraiment un excellent article. Et un article américain qui a été traduit en français dans le site, sur le site terrestre.org et qui est tiré d'un ouvrage collectif d'universitaires dirigé par, devine qui, Bruno Latour, notre fameux Bruno Latour à qui on a rendu hommage il y a quelques semaines lors de son décès. Alors, on y va ?
Allons-y.
C'est parti. On le sait donc, le nombre et la fortune des milliardaires a explosé sous le régime politique néolibéral grâce à la mondialisation et la révolution des marchés financiers. Beaucoup d'entre eux sont les nouveaux héros des temps modernes, d'accord, auxquels beaucoup de jeunes s'identifient et des moins jeunes également. Et en plus, Mathieu, c'est des bons gars.
Ah oui.
Oui, c'est des bons gars.
C'est vrai.
Eh bien oui, ils veulent aider le monde. C'est des bons gars, d'accord. Ils consacrent donc une partie de leur fortune à des œuvres caritatives. Ce qui est un paradoxe, hein, quand même, tu le noteras, parce qu'en fait, ils consacrent aussi une grosse partie de leur temps à échapper à l'impôt, hein, par des stratégies fiscales assez sophistiquées, ce qui diminue d'autant les recettes des États, et donc la capacité des États à aider le monde.
Ouais.
D'accord ? Donc c'est un paradoxe, mais en fait, non. Si pour les auditeurs qui ont suivi mes chroniques précédentes, vous vous souvenez que pour la plupart de ces milliardaires libertariens, ils sont convaincus que l'État n'est pas la solution, mais est le problème. Mmh. Donc pour eux, c'est normal. Alors, un mouvement très populaire est né il y a 15 ans chez ces milliardaires qui s'appelle l'effective altruism. L'altruisme efficace. Ouais. Je traduis hein, quand même. Il s'agit en fait de trouver des méthodes scientifiques pour faire des choix objectifs, efficaces, rationnels, histoire de montrer qu'on est plus efficace que l'État. D'accord ? Pour faire tous ces dons, ces actions en faveur de la société. Alors, dans notre description du régime politique d'accumulation néolibérale qu'on avait fait, et qui est encore un peu dominant aujourd'hui, on avait mentionné cette philosophie, c'est la démocratie des experts. Plutôt qu'un système démocratique, il vaut mieux confier des affaires à des experts. Voilà, c'est un peu cette philosophie. Une petite remarque en passant, le penseur de ce mouvement de l'altruisme efficace, c'est un philosophe qui s'appelle William McHaskill, a expliqué qu'il était logique et légitime que les milliardaires se soient d'abord employés à réaliser des fortunes immenses, à devenir milliardaires en quelque sorte. Parce qu'ensuite, ils vont pouvoir faire le bien. D'accord ? Donc c'est normal. Et là, il a utilisé, une comparaison absolument incroyable. Il a comparé ça à l'industriel allemand Oskar Schindler, la liste de Schindler, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant, a fait fortune grâce aux nazis. Ouais. Mais attention, il a quand même pu aider 2000 juifs. Hein. Ouais. Il a sauvé 2000 juifs des camps de concentration. Et donc là, on a envie de lui dire, attends, William, bouge pas. Un instant, tu crois pas que ce serait peut-être mieux que Schindler, il ait lutté contre l'avènement des nazis au pouvoir plutôt que faire comme ça?
Ouais.
Ah, je sais pas, je pose la question, hein, mais bon.
Ouais.
Chacun sa réponse.
S'ils peuvent faire le bien après être devenus milliardaires, ça veut dire qu'avant, ils ne le faisaient pas vraiment.
Et il en a profité des nazis, en quelque sorte. En fait, le concept de l'altruisme efficace est une traduction moderne de la philosophie de la bourgeoisie industrielle dominante du 19e siècle, qui consistait à installer sa domination sur un système économique pour ensuite redistribuer des miettes via la charité. Ça, c'est rien d'autre que ça, en fait. Mais bref, ce concept n'est pas le plus important pour bien comprendre l'idéologie des milliardaires. On va passer à autre chose, mais on va rester sur le même philosophe, William McHaskill, qui en 2014 s'associe avec un autre philosophe, un Suédois cette fois-ci, Nick Bostrom, pour étudier quoi ? Eh bien étudier un concept que Nick Bostrom avait créé, qui est le concept de risques existentiels pour notre civilisation. Et il a donc, William McHaskill et Nick Bostrom, ensemble, ont listé tous les risques qui pèsent sur la survie de notre civilisation. Alors c'est un genre d'inventaire à la Prévert.
Okay.
En vrac, tu as les nanotechnologies, dont l'usage pourrait être incontrôlé. La géo-ingénierie, oui c'est vrai, faire mumuse avec le climat, etc., ça pourrait mal tourner. Bah, évidemment, une collision entre la Terre et un astéroïde, c'est classique. Une pandémie, ils avaient pensé quand même, pas bête. Parmi tous ces risques, il y en a un qui prédomine, c'est le risque du développement d'une intelligence artificielle dite générale qui dépasserait l'intelligence humaine. Ça, c'est la fameuse théorie de la singularité des transhumanistes qui définit le moment où les intelligences artificielles dépasseront définitivement l'intelligence humaine et la capacité des êtres humains à la contrôler. D'accord ? Voilà, donc dans tous ces risques, Nick Bostrom et William McCaskill font la liste et puis se posent des questions sur comment les éviter, etc. Mais en fait, Nick Bostrom, au-delà du simple fait d'éviter l'extinction de l'espèce humaine, se place un autre objectif. Et l'objectif, c'est de réaliser le plein potentiel de l'humanité. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, il a une vision extrêmement quantitative de la question. Il s'agit en fait pour lui de créer des êtres humains aux capacités intellectuelles surpuissantes en faisant une sorte de couplage, de combinaison avec les systèmes informatiques.
Ouais.
D'accord ? Donc c'est ça sa vision. Et on s'aperçoit que dans cette vision, on est complètement dans une logique productiviste où il s'agit en fait d'atteindre des niveaux d'efficacité extrêmes d'exploitation des ressources et de contrôle. Bref, il s'agit d'être des super capitalistes. D'accord ? Le rêve de Nick Bostrom, le rêve de ces milliardaires, c'est d'être encore et toujours plus des capitalistes. C'est merveilleux, hein, d'accord ? D'exploiter toujours le monde. Le monde, pas uniquement, hein, d'exploiter l'univers, ouais. Parce que le monde ne va pas suffire. Et oui, ils sont pas fous, les milliardaires. Ils savent bien qu'ils sont en train d'épuiser notre planète, d'accord ? Pour info, je mettrai dans le podcast aussi un rapport fait par Oxfam et Greenpeace sur l'impact de l'activité des milliardaires sur le réchauffement climatique, qui est absolument faramineux. Alors qu'ils se préparent pour affronter cet épuisement. On en vient à la question que je posais. Pourquoi je dis non, ils n'y croient pas ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout en train de préparer une lutte pour maîtriser le réchauffement climatique. Ils préparent autre chose. Alors qu'est-ce qu'ils prévoient ? Ils prévoient d'abord à long terme, et ça on le sait, puisque c'est les violons des projets de Jeff Bezos et Elon Musk, eh bien, d'aller sur Mars, coloniser Mars, blablabla. Ok, ça c'est de la SF, tranquille.
Oui.
Mais ça montre déjà que la Terre, l'idée c'est de l'abandonner. Oui, mais à court terme. Qu'est-ce qu'ils prévoient à court terme ? Eh bien, à court terme, il prévoit, là c'est beaucoup fait beaucoup plus discrètement, parce que c'est en route, hein, c'est déjà en route, d'identifier les zones géographiques sur Terre où ils pourront s'installer et se barricader pendant que le monde étouffera peu à peu. Alors, je vais te parler, tu vas essayer de deviner. Une île très éloignée du reste du monde, autosuffisante, relativement stable politiquement, avec de vastes terres inhabitées, gorgées d'eau propre, et qui ne devraient pas beaucoup être affectées par le réchauffement climatique. À quelle île tu peux penser, Mathieu ?
Alors là, j'en ai aucune idée.
Allez, pas loin d'Australie ?
Non, je sais pas.
La Nouvelle-Zélande, Mathieu.
La Nouvelle-Zélande, c'est le paradis.
C'est la destination numéro un. Qui est privilégié par ces milliardaires pour s'installer dans cette perspective-là. Numéro 2, il y a l'Argentine, certaines zones de l'Argentine également.
D'accord. C'est super, c'est magnifique la nouvelle.
En attendant, les milliardaires ont pour idée de ne pas hésiter, pourquoi pas, à contribuer à l'effondrement des États. Je vous rappelle que ce sont des libertariens. Ouais. Donc comment ? Alors, ce n'est pas une idée récente, cette histoire-là. Il y a un roman sorti en 1957, qui est devenu le roman culte des libertariens, écrit par une Américaine qui s'appelle Anne Rand. En français, le titre, c'est « La grève ». Alors, c'est un livre qui raconte la révolte des hommes de l'esprit. Qui sont l'élite du monde, okay. Et qui abandonnent le monde et provoquent l'effondrement du monde. En 97, quelques décennies plus tard, deux auteurs américains, James Dale Davidson et William Rees-Mogg, publient « The Sovereign Individual », ce qui veut dire « l'individu souverain ». Mais le sous-titre est intéressant, je vous le traduis en français. « Comment survivre et prospérer pendant l'effondrement de l'État-providence ». 97, ce roman, il décrit un monde où, sous les coups de boutoir de l'innovation, par exemple les crypto-monnaies, la cyber-économie, etc., eh bien, peu à peu, les États s'effondrent. Et les élites mettent en place leur survie à coups de paradis fiscaux, d'investissement dans ce qu'on appelle à l'époque le cyberespace, tiens, on pourrait appeler ça le métavers aujourd'hui. Et donc, le livre présente une sorte de royaume d'activité économique sans existence matérielle, le métaverse, où les bénéfices iront à l'élite cognitive, l'élite, les milliardaires, qui agira de plus en plus en dehors des frontières politiques. En fait, là, je suis en train de vous citer des extraits du bouquin, enfin, de la présentation du bouquin, qui jouira d'une sorte d'immunité diplomatique contre la plupart des malheurs politiques qui tourmenteront les mortels. D'accord ? Dans le même environnement physique que les mortels du commun, mais dans un royaume politiquement différent, à distance de l'apocalypse, la Nouvelle-Zélande, Mathieu. Voilà. Et si tu en veux un peu plus de détails sur les actions possibles de ces élites, eh bien on peut revenir à Nick Bostrom, le philosophe, qui a ainsi défendu la possibilité de frappe préventive contre un État qui présenterait un risque existentiel pour l'humanité. Bon, ben, qui va définir la notion de risque existentiel, c'est à voir. Il a défendu aussi la construction d'un système de surveillance mondiale omniprésent et en temps réel pour prévenir l'émergence d'une technologie incontrôlée. D'accord. Big Brother, hein, technologique, voilà. Ou alors, il y a un autre philosophe, penseur de l'altruisme efficace, Nick Beckstead, qui soutient l'idée que les vies des habitants des pays riches doivent être prioritaires sur celles des habitants des pays pauvres, car les plus riches innovent substantiellement plus et leurs travailleurs sont plus productifs. Voilà. Donc en gros, j'en ai terminé Mathieu avec l'idéologie des milliardaires. Elle est fondée sur une relation à la démocratie extrêmement élastique, hein, d'accord, c'est pas une valeur très dominante, on l'avait vu dans la chronique précédente. Un rapport au réchauffement climatique en mode, ben, vous savez quoi, démerdez-vous. Donc, on pourrait dire en conclusion, le néolibéralisme affirmait que le recul de l'État était nécessaire pour le bien commun, hein, ça c'était donc le discours des néolibéraux, et bien les libertariens, ils n'ont pas ces scrupules. Pour eux, le recul de l'État est la finalité, c'est le socle de leur pensée. Quant aux conséquences, ils ne cherchent même pas à agir contre les conséquences, réchauffement climatique, destruction environnementale, il s'agit de l'idéologie du laisser-faire. Laisser-faire quoi ? Laisser-faire la sélection naturelle, en quelque sorte. Seuls les plus forts survivront. Les plus forts, ce sont eux, ce sont les milliardaires. Un film illustre parfaitement ça, un film de science-fiction, il s'appelle Elysium. Je mettrai la bande-annonce dans le podcast, parce que c'est une fiction qui présente ce monde où ce genre d'événements sont advenus. J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick. À la semaine prochaine.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Motorhead qu'on est en train d'écouter avec un morceau qui s'appelle Eat the Rich. C'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous laisse avec Motorhead qui continue de crier Eat the Rich, manger les riches.